Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un beau week-end à l'écoute d'RTL, évidemment, et à l'écoute de vos envies aussi. Soyez les bienvenus sur cette antenne. La semaine s'annonce riche. Demandez le programme, dites donc. Il est sur nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vous le disais, nous sommes en direct. Donc, on discute jusqu'à 15h30 et j'ai bien dit, on discute. Car ce n'est pas toujours le dernier qui a parlé, qui a raison. Pourtant, certains s'obstinent, persistent et signent, même quand l'objet de la discussion n'est qu'une broutille. Coûte que coûte, ils veulent toujours avoir le dessus. Alors que se cache-t-il derrière le besoin de mettre un point final à une conversation? Pourquoi ne pas lâcher? Quel est l'intérêt du rapport de force verbale? Et qu'obtient-on réellement quand on porte l'estocade? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Guillaume Villemot, bonjour.
Bonjour Flavie.
Ça fait plaisir de vous voir en vrai, dites donc. Oui, vous n'avez pas changé depuis tous ces longs mois. Non. Soyez le bienvenu sur RTL. Merci. Vous êtes fondateur du Festival des Conversations, festival que j'adore, auquel je participe. La prochaine...
On essaye de faire quelque chose au mois novembre.
Bon, alors vous nous tenez au courant. Le principe du Festival des Conversations?
Donner la parole à tout le monde, redonner le goût des conversations. Exactement. Et montrer à tout le monde qu'on peut se mêler à une conversation en écoutant les autres.
Alors, c'est peut-être là, justement, la base de la question du jour. Merci d'être avec nous, Guillaume Villemot. À vos côtés, Isabelle Châtaignier. Bonjour,
bonjour
Isabelle.
Salut.
Soyez la bienvenue. Vous êtes humoriste, vous êtes ancienne avocate, professeure d'art oratoire à Sciences Po et à Eloquentia, et auteur d'un livre sur les réparties de choc aux éditions First. Est-ce qu'il y a une technique, justement, pour avoir le dernier mot dans une conversation?
Ah, il y en a plein. Je pense qu'on aura l'occasion d'en voir. Après, tout dépend, en fait, de la relation que vous avez avec la personne en face qui veut avoir le dernier mot. Et je pense que la répartie, dans ces cas-là, on verra ce que c'est qu'une bonne répartie, mais la répartie est très, très utile.
À nos côtés, mais il n'est pas là, Jean-François Marmion au téléphone. Bonjour Jean-François.
Bonjour, je suis là, mais absent.
Comment ça va, petit youyou?
Ah, vous vous souvenez de ça?
Jean-François
Marmion,
vous
a marqué.
Psychologue. Ah bah attendez, il y a des choses qu'il ne faut jamais me confier, vous le savez quand même. Jean-François Marmion est psychologue et il intervient régulièrement dans cette émission. On a fait une émission dernièrement sur les surnoms. Est-ce qu'on est dépossédé finalement d'une part de notre identité à travers nos surnoms? Et depuis que je sais que ce grand Jean-François Marmion aujourd'hui s'appelait le petit youyou à l'époque de la cour de récré, évidemment je m'en donne à cœur joie. Jean-François Marmion, qu'est-ce que ça cache justement le fait de vouloir avoir le dernier mot, parce que certains nous parlent d'ego sur les réseaux sociaux.
Oui, je pense que ça dépend du sujet abordé, en fait. Hein. On veut tous avoir le dernier mot, dès lors que le sujet est très important pour nous, si c'est des valeurs morales, des idées politiques, des croyances religieuses, parce que ça nous définit, ça nous structure, ça définit le monde en bien ou en mal, et comme par hasard, on est du bon côté de la barrière, on est dans le camp du bien, on est dans le camp des gens intelligents, et on ne veut pas céder là-dessus. Mais il y a aussi des gens qui préfèrent avoir raison sur tout et n'importe quoi, même les sujets les plus futiles. Alors qu'est-ce que ça cache?
Oui, justement, qu'est-ce que ça dit de nous dans ces cas-là?
Alors, quand on veut avoir raison sur quelque chose de vraiment important, ça peut cacher, ça cache qu'on se protège. Mmh. On protège ce qui nous définit à nos propres yeux. Et quand on veut avoir raison sur n'importe quoi, ça peut cacher la peur d'être pris en défaut, la peur d'être vulnérable. On croit qu'on perd la face et on se fait détester parce qu'on a peur d'être mal jugé.
À nos côtés, donc, je le disais tout à l'heure, Guillaume Villemot. Guillaume, Patrick nous écrit, je l'avoue, j'ai tout le temps le dernier mot, de l'ego mal placé, peu importe, j'aime maîtriser la conversation. Est-ce que ce n'est pas justement l'antithèse de la conversation, la maîtrise?
Si, parce que souvent...
La maîtrise, la méprise, vous voyez ce lapsus?
Non, mais souvent, c'est la volonté de vouloir effectivement avoir le dernier mot peut être aussi l'absence d'écouter les autres. Et le fait de dire qu'on écoute finalement soi-même et on n'écoute pas l'autre. Et donc, on veut absolument affirmer quelque chose. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de conversation, parce que ça clôt rapidement quelque chose. On est à la recherche pour
la conversation, c'est l'inconnu, c'est le risque.
Ah oui, c'est ça qui est drôle, c'est cette espèce de déambulation qu'on peut faire à un moment donné. Et là, on est plus dans la recherche, pour employer un mot français que j'aime beaucoup, de la punchline.
Mmh, oui, et qui effectivement est un terme d'actualité. Isabelle Châtaignier.
Là où c'est intéressant, en fait, dans l'expression même « avoir le dernier mot », c'est que ça ne veut pas dire « avoir raison » forcément. Mm-hmm. On est plus dans la forme que dans le fond, finalement. Qu'est-ce qui se passe chez celui qui veut avoir le dernier mot? C'est c'est le besoin de briller. Et finalement, il y a une tradition française d'avoir le dernier mot. Vous voyez, à Versailles, il y avait les salons de conversation, on aime bien la répartie. Tout le monde adore Cyrano parce qu'il avait cette manière vraiment de clore le bec
hein,
aux personnes et aux importuns. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'est plus tellement finalement dans une recherche de l'esprit, de celui qui a le plus d'esprit. Celui qui a le dernier mot, c'est souvent celui qui gueule le plus fort. Et c'est là où ça devient un petit peu problématique, parce que ce qui devrait être une conversation normale entre personnes qui s'écoutent devient finalement un combat avec un vainqueur et un vaincu à la fin. C'est là où, en général, les personnes qui veulent absolument avoir le dernier mot sont un peu désagréables.
Et gueuler le plus fort, c'est un peu tendance en ce moment, non, Jean-François Marmion ?
Oui, ça rejoint exactement ce qu'on appelle la post-vérité, et dont Donald Trump est l'une des figures de proue. C'est-à-dire que on n'essaye même pas de mentir, parce que mentir, c'est se positionner par rapport à la vérité et essayer de ne pas être découvert. La post-vérité, c'est se moquer complètement de la vérité et juste être celui qu'on regarde, être celui qui attire l'attention, qui prend les rieurs de son côté. Et ça, on le voit tout le temps dans les clashs, par exemple sur Twitter, ou dans les débats présidentiels même. Hein. L'important, c'est pas, lorsqu'on est spectateur de ça, c'est pas de se dire, voyons voir, je vais réfléchir, qui est vraiment le meilleur, quels sont les arguments. Non, on veut voir qui va clouer le bec de l'autre.
Marine nous écrit, même si le dernier mot ne fait pas mouche, je ne peux pas m'empêcher de rajouter toujours quelque chose, notamment dans les disputes. Tu rêves, n'importe quoi, non mais tu t'entends, ah bah bonjour le niveau. Et si l'autre continue, je ne lâche rien, c'est ça. Ouais, bien sûr, tu parles tout seul. Ça peut aller jusqu'à des onomatopées. Pff, ah, ou même un rire. Mais j'ai besoin de prononcer le dernier mot, voire le dernier son. Ça rejoint la vacuité aussi, quelque part, de cette conversation. Jean-François.
Oui, oui, c'est purement formel, c'est un combat de coq. Hein. Voilà, c'est le dernier qui dit qui a parlé, et peu importe ce qu'il dit en fait. Parce que là, quand on dit pour avoir le plaisir de le dernier à placer quelque chose,
oui, mais ça veut bien dire un truc aussi, ça, Jean-François. C'est ce que je veux dire par là, c'est que ça doit bien dénoter quelque part, je sais pas, un besoin, une revendication profonde, intérieure, une rage, une colère, parce que certains s'en foutent complètement.
Oui, ça peut revendiquer ça, mais ça peut aussi ne rien vouloir dire du tout.
Ah,
ça peut être juste une sale habitude, et ce qu'on appelle des scripts ou des jeux de rôle hein, en psycho, c'est-à-dire on est dans une situation avec une personne donnée, on a l'habitude que ça se passe comme ça, et ça va se passer comme ça, mais parfois il n'y a rien derrière, c'est juste mécanique.
Bon, je reprends l'antenne si ça ne vous dérange pas, hein. J'aurai le dernier mot sur cette histoire. On va se quitter un très court instant, on accueillera Élise après sur cette antenne. Guillaume Villemot, je vous ai vu opiner du chef, donc vous pourrez prendre la parole dans un instant. A tout de suite en direct sur RTL.
On est fait pour s'entendre, Flavie Flamand sur RTL. Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre.
Il en est qui veulent absolument porter l'estocade, avoir le dernier mot dans une conversation. Qu'est-ce que ça dit de nous lorsque l'on agit ainsi? Est-ce que c'est véritablement une victoire de porter l'estocade? On en parle avec nos invités aujourd'hui, que sont Guillaume Villemot, qui est fondateur du Festival des Conversations, Isabelle Châtaignier, qui est professeure d'art oratoire à Sciences Po et à Eloquentia, et Jean-François Marmion, donc, qui est psychologue en ligne avec nous. Je vais repartir, juste avant d'accueillir Élie, sur un message que l'on a reçu qui, à mon avis, va vous faire réagir, mon cher Guillaume Villemot. C'est Valérie qui fait preuve d'autocritique hein, et qui, en même temps, de grande générosité puisqu'elle nous livre sa technique. Cette technique pour avoir le dernier mot consiste à partir au bon moment, comme ça je n'entends pas si la personne en face a réagi. Est-ce que c'est vraiment bien avoir le dernier mot dans ces cas-là?
C'est avoir
que
son
de claquer
dernier
la
mot.
Porte. Oui, c'est ça.
C'est son propre c'est dernier mot, ça qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière. Mais les portes sont des lieux formidables de conversation et de renaissance des conversations où on peut avoir effectivement le dernier mot. Et on voit, enfin moi, très amusant, il y a quelqu'un qui était venu avec moi un jour dans une émission avec vous, qui est Pascal Diby, qui a écrit tout un bouquin sur la porte, justement, et sur les pas de porte. Et les pas de porte sont des lieux qui permettent ces conversations et qui permettent peut-être, pour certains, de pouvoir avoir le dernier mot et ensuite de partir en courant.
Oui, parce que ce peut être donc physique aussi.
Bien sûr.
Voilà. Mais est-ce que c'est vraiment avoir le dernier mot? Selon vous, Isabelle Châtaignier, c'est plutôt de la fuite, non?
Oui,
c'est
alors
une façon de s'approprier finalement la fin d'une histoire.
Là où c'est très intéressant, ce que disait Guillaume à l'instant, c'est justement cette notion de porte, parce qu'il y a une autre notion qui s'appelle l'esprit de l'escalier, qui avait été notamment célébré, enfin pas vraiment célébré, plutôt déploré par Jean-Jacques Rousseau dans Les Confessions, où il disait, moi j'ai l'esprit de l'escalier, c'est-à-dire que je ferai des très bonnes conversations mais par la poste. Quand je descends l'escalier après une conversation, j'ai toujours l'impression de me dire, ah j'aurais dû dire ça.
Ça nous arrive à tous.
Et voilà, ça nous arrive à tous et c'est très, très frustrant.
C'est vrai. On accueille Élise sur cette antenne. Bonjour Élise.
Oui, bonjour.
Soyez. Oh là là, quelle jolie petite voix.
Merci.
N'en prenez pas ombrage, mais ce que je veux dire, c'est que notre voix dit des choses de nous aussi,
oui,
Élise.
Tout à fait.
Et on reçoit des messages, hein, de certains qui nous expliquent effectivement qu'ils veulent avoir le dernier mot, parce que sinon ils ont le sentiment, comme nous écrit Olivier, que l'autre me domine et me rabaisse. Pour vous, justement, oui, c'est un rapport de force qui s'installe dans la conversation ?
Oui, tout à fait. Moi, je fais plutôt partie des personnes qui ont du mal à avoir le dernier mot face à de fortes personnalités.
Ouais.
Surtout au niveau amical ou professionnel. Et qu'est-ce que c'est difficile.
Alors,
c'est
intéressant parce que vous dites, je fais partie des personnes qui ont du mal à avoir le dernier mot. Est-ce que vous pensez que c'est une nécessité ? Est-ce que c'est quelque chose d'indispensable en réalité ?
C'est important.
Pourquoi ?
C'est important pour l'ego, mmh, pour exprimer ce qu'on pense réellement. Enfin, c'est important pour l'image qu'on a de soi-même, je dirais.
Est-ce que vous vous sentez dans ce genre de conversation en insécurité, au point justement de ne pas pouvoir aller contre nature, c'est-à-dire parler plus fort, parler de façon plus affirmée ?
Insécurité, je ne sais pas, mais oui, ça m'empêche des fois d'aller jusqu'à là où je veux en venir par rapport à mon argument, par exemple.
Parce que je me dis, quand vous me dites, moi, je peux pas dire tout ce que j'ai à dire, ou j'ai sentiment de ne pas pouvoir véritablement dire ce que je pense, si vous avez en face de vous quelqu'un qui ne se met pas dans une posture d'avoir le dernier mot, qu'est-ce qui, mm-hmm, vous empêche finalement d'exprimer les choses ? Rien. Tout dépend de notre interlocuteur, non ?
Oui, voilà, tout à fait.
C'est ça.
C'est un rapport de force, en fait, entre,
ouais,
les personnes qui ont le dernier mot. C'est exactement ça.
Et ça, il y a des personnalités qui ne cherchent pas à s'imposer. Moi, je vais vous faire une confidence. Parfois, je m'en fous complètement d'avoir le dernier mot. C'est-à-dire que je ne cherche même pas, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que, à la limite, si je rencontre des personnes qui vont absolument vouloir se positionner dans ce genre de combat, effectivement verbal, voilà, si c'est pas fun, si ça m'amuse pas, s'il y a pas d'humour, s'il y a pas de bienveillance, si c'est pas une joute un peu intellectuelle, voilà, vraiment, je passe mon chemin, quoi. Je m'en fous.
Tout à fait. Écoutez-moi, c'est plutôt selon mon interlocuteur.
Ouais.
Si je connais plus ou moins la personne, soit je laisse tomber, donc je prends la fuite, ou alors il faut essayer de jouer l'humour, selon d'être très d'esprit, par exemple.
Mmh. C'est ce que vous faites, vous ? Vous avez recours à l'humour ?
Pas tout le temps, mais ça arrive. Des fois, je dis, bon, si t'es persuadé d'avoir raison, je te laisse sur ta position.
Vous n'aimez pas le conflit, vous ?
Non.
Vous aimez bien que les choses se passent d'une façon fluide, quoi. Vous n'aimez pas les...
Ah, oui, tout à fait.
Oui, c'est pas dans votre tempérament.
Pas du tout.
Est-ce que vous vous sentez parfois un petit peu à part, justement, dans ce monde où on nous demande d'avoir un point de vue sur tout, où on devient tous les procureurs de la rue, où on est tous des spécialistes à la place des spécialistes ?
Oui, ça arrive, oui. Surtout, oui, tout à fait, dans le domaine professionnel, beaucoup, ouais.
Qu'est-ce que vous faites comme boulot ?
Je suis agent d'accueil.
D'accord, ok. Vous restez avec nous, Élise ?
Oui.
Dans un instant, on va voir justement avec Jean-François Marmion, hein, quelle est notre nature profonde. Est-ce qu'il faut aller contre nature dans notre monde d'aujourd'hui ? Quelle est la meilleure ? Parce que vous parliez d'esquive ou de fuite. Moi, je ne suis pas persuadée. Je pense que c'est de l'indifférence à un moment donné aussi, mais on va en parler. Mm-hmm. Si vous voulez, Isabelle Châtaignier vous donnera une ou deux techniques quand même pour moucher ceux qui cherchent. Et puis, on demandera à Guillaume Vilmos ce qu'il pense de tout ça. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. Jusqu'à 15h30.
J'ai toujours besoin d'avoir le dernier mot et souvent avec excès, c'est vrai, nous écrit Laurence. C'est notre sujet du jour jusqu'à 15h30 en direct sur RTL. Je me contiens au travail face à mes boss, mais je le vis hyper mal car je ne peux pas leur décocher la répartie qui va faire mouche, c'est trop violent. Je peux en pleurer parfois. Bon, alors il en est une qui a un petit peu plus de mal. C'est ainsi que vous nous l'avez expliqué, Élise. Vous êtes en ligne,
oui,
avec nous. Et moi, oui, je revenais sur cette idée que vous avez sûrement une nature aussi à vouloir que les choses se passent bien et que vous n'avez pas une grande appétence finalement pour le conflit. Voilà, le conflit
non,
et le débat. Bon, alors ça nous fait un point commun. On va demander à Jean-François Marmion, déjà qui est psychologue, de réagir à votre témoignage. Jean-François, c'est difficile, hein, un monde comme celui d'aujourd'hui pour des personnalités comme Élise ?
Oui, mais justement, je voudrais réagir à des termes qu'elle a employés. Elle a dit qu'elle avait du mal face aux fortes personnalités.
Oui, comme si elle n'en avait pas.
Mais ce n'est pas une forte personnalité, quelqu'un qui veut à tout prix avoir raison, qui veut à tout prix dominer les autres, qui roule des mécaniques et qui fait le malin. C'est un signe de faiblesse.
C'est grave.
Quand on est bien dans sa peau, on n'a pas besoin de dominer. On n'a pas besoin de se laisser marcher sur les pieds non plus, hein, mais juste les autres sont OK, moi je suis OK. On n'a pas besoin de ça. Donc la forte personnalité n'est pas du côté qu'on croit, à mon avis, avec Élise.
D'accord.
Capiche, Élise, ouais. Vous ne l'oubliez pas. C'est une question de regard. Qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle Châtaignier? C'est le regard que l'on pose aussi sur l'autre qui nous positionne.
Oui, exactement. Là, de ce dont on parle, en fait, c'est des gens qui veulent avoir toujours raison, enfin, donner l'impression qu'ils ont raison par principe. Ils ne sont pas dans une démarche de conviction. Et la plupart du temps, ce qu'on constate, c'est que les personnes comme ça qui veulent absolument avoir raison sur tout et n'importe quoi, bah, n'y connaissent rien à quoi que ce soit. Un expert, lui...
gueule.
Non, mais c'est vrai, un expert, lui, quand il connaît bien son domaine, il n'a pas besoin d'aller embêter n'importe qui pour convaincre. Il sait qu'il a raison, il est zen. Alors que les personnes qui s'excitent, qui crient, qui lâchent pas le morceau, qui épuisent finalement leurs interlocuteurs, c'est souvent des gens qui malheureusement n'ont pas grand-chose à dire.
Voilà. Et vous qui êtes justement professeur d'art oratoire à Sciences Po, qu'est-ce que l'on peut dire à Élise si toutefois de temps en temps, elle tombe sur ces fameuses fortes personnalités telles qu'elle les appelle, et que le sujet lui tient à cœur, parce qu'on va revenir sur la hiérarchie aussi des sujets. Hein. Il y a certaines choses on n'a pas envie de lâcher parce que c'est en nous, et puis on a d'autres on laisse glisser parce que ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce que l'on peut dire à Élise justement?
Alors il y a la hiérarchie des personnes, des sujets, mais il y a aussi la hiérarchie des personnes, c'est-à-dire est-ce que vous êtes en face d'une personne qui compte dans votre vie ou pas. Vous avez plusieurs techniques qui va de la plus calme à la plus violente, on va dire. La première, c'est vous pouvez essayer de trouver un terrain de concession, de dire oui, tu as peut-être raison là-dessus, mais tu ne peux pas dire ça sur tel autre point, pour essayer que chacun fasse une partie du chemin. Vous pouvez aussi poser des questions à la personne pour essayer de la décrédibiliser un petit peu.
C'est bon ça, c'est une super technique ça, Élise.
Décrédibiliser le propos qui est tenu en face de vous, et en posant « Ah bon, tu penses ça, mais pourquoi tu penses ça ? D'accord, mais tu l'as lu quelque part dans une étude, etc. etc. » Et en général, la personne qui n'y connaît rien va se décrédibiliser toute seule. Et puis après, vous avez la fameuse petite pique qui, en général, c'est comme le hippon au judo, hein, ça met tout le monde d'accord. Soit un petit peu humoristique pour essayer de détendre l'atmosphère et de faire en sorte qu'on ne parte pas fâché. Ou alors, vous avez la bombe nucléaire, carrément, c'est vraiment la pique méchante, un peu méprisante. Je pense notamment au débat de 88 entre Chirac et Mitterrand. Où Mitterrand avait répondu à Chirac, mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Mais c'était formidable.
Bon, c'était formidable. Et d'ailleurs, on voit bien aujourd'hui, quand on a des rétrospectives, la rétrospective s'arrête là. Personne ne sait ce qui s'est dit pendant le débat. La seule phrase qui a été retenue, c'est ce moment de méchanceté, de mépris
et d'intelligence. C'était clair.
Une intelligence incroyable. Mais c'est d'une efficacité redoutable. Et qu'est-ce que vous voulez répondre après ça?
Effectivement, on s'en souvient, ça laisse une trace. Guillaume Villemot.
Non, vous me disiez tout à l'heure, vous parliez du timbre de voix d'Élise. Parler souvent bas. Quand quelqu'un parle fort, c'est une bonne façon aussi de l'emmener à vous forcer. Ça va le forcer à vous écouter dans certains cas.
Oui, ne pas gueuler en même temps que l'autre.
Oui, non, ça ne sert à rien parce que si vous haussez le ton, l'autre va le hausser encore et manifestement, il peut avoir déjà une longueur d'avance par rapport à vous. Donc plutôt au contraire, essayez de parler, de baisser le ton, ce qui force l'autre du coup à réellement vous écouter. Et puis après, il y a la posture, c'est la façon dont vous tenez physiquement face à la personne qui est en face de vous.
Alors ça, c'est intéressant aussi, c'est-à-dire qu'il faut occuper, je dirais, un peu l'espace, Guillaume Villemot, dans une conversation.
La conversation, alors vous avez les gens qui vont privilégier la conversation en marchant, ou la conversation en étant côte à côte, c'est-à-dire qu'on ne se regarde pas dans les yeux, mais qui permet de pouvoir finalement dire beaucoup de choses. Et puis il y a, vous savez, les célèbres fauteuils, les conversations qui sont ces fauteuils en S, où on est assis les yeux dans les yeux, et là on se dit aussi d'autres types de vérités. Ce qui est en revanche important, c'est d'être à la même hauteur. C'est qu'il n'y en a pas un qui est un sachant qui serait debout quand vous vous êtes assis. C'est impossible de pouvoir avoir le dernier mot dans cette posture-là. C'est pas possible. Donc il faut qu'il y ait aussi physiquement un pied d'égalité qui se fasse entre les deux.
Est-ce que ça vous éclaire, Élise?
Ah oui.
C'est intéressant.
Je vais prendre quelques conseils, effectivement. C'est des aspects que je n'avais pas imaginés.
Allez-y, je vous en prie, pardonnez-moi.
Non, ça me donne de très bons conseils en tout cas.
Mais oui, mais c'est intéressant, on va en donner jusqu'à 15h30. On va terminer avec une impression de Jean-François Marmion. Est-ce qu'effectivement, se mettre dans une posture, alors qu'elle soit physique, qu'elle soit au niveau de la tonalité de la voix, et se mettre dans une posture un peu de soumission, en rajoute aussi quelque part au sapage de l'ego?
Oui, parce que avoir le dernier mot, c'est pas seulement une affaire de conversation, justement. Dans un échange oral entre des gens, il n'y a pas que les mots. Il y a les intonations, il y a le second degré, il y a le sarcasme, il y a le faux compliment, il y a l'ironie, il y a tout ça. Et il y a aussi la façon dont on peut faire semblant de se soumettre aussi, s'aplatir avec un petit sourire. Enfin, c'est Edwy Plenel qui est très fort à ça dans les débats télévisés. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, il a un petit sourire derrière sa moustache. Genre, tu racontes absolument n'importe quoi. Et grâce à mon sourire, tout le monde le voit. Il répond pas.
Donc ça veut dire qu'on peut se faire du mal aussi en se mettant dans cette posture. C'est ce que je voulais dire.
Évidemment, le tout, c'est de ne pas se mettre dans la posture qui est attendue par notre interlocuteur. Par exemple, ce qu'il faut éviter, c'est ce qu'on appelle l'escalade de symétrie. Il m'envoie une balle de ping-pong, je réponds d'un coup de revolver, alors il sort sa mitraillette, moi je sors mon bazooka, lui c'est sa bombe atomique et ça explose. Ce qui est très beau, c'est de rompre cette escalade. Par exemple, je connais une femme, lorsque son mari commence à râler, qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu de renchérir, elle lui fait un gros bisou en disant « Oh, mon petit ronchon d'amour !» Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça?
Oh, vous êtes un tendre, vous. Merci beaucoup, Élise, d'être intervenue sur cette antenne. J'espère qu'on aura pu vous éclairer. Je vous embrasse.
Oui, merci.
Passez une bonne fin de journée. Merci d'avoir été avec nous. Je vois Olivier Bois qui est en train d'arriver dans notre studio. On va faire un détour par l'information sur RTL.
RTL, on est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL, jusqu'à 15h30.
Voilà, aujourd'hui, on parle de ceux qui cherchent à avoir le dernier mot, qui cherchent à maîtriser la conversation comme bien sûr, on n'est que lundi, comme nous l'écrit Patrick sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on se dit, Guillaume Villemot?
Qu'il faut maîtriser
la conversation.
Il faut écouter les autres.
Alors justement, Béatrice nous écrit, moi j'ai une forte personnalité, j'adore dialoguer, je pense avoir une grande écoute et je prends énormément soin des interlocuteurs qui ont cette petite voix, écrit-elle entre guillemets, comme Élise qui a témoigné sur cette antenne. Il m'arrive encore parfois de couper la parole, c'est devenu assez rare et lorsque je le fais, je m'excuse dans la foulée et je rends cette fameuse parole. Tiens, couper la parole, c'est une technique, Isabelle Châtaignier?
Alors oui, c'est une technique, mais qui n'est pas très très louable. Très honnêtement, c'est pas non plus. Le principe quand même d'une conversation, c'est qu'il y ait une réciprocité. Quand il y a quelqu'un qui parle, il y a quelqu'un qui écoute, et vice versa. Couper la parole, c'est aussi un aveu d'échec, en quelque sorte. C'est la seule manière que j'ai trouvée pour avoir raison. Donc c'est pas très louable, c'est pas très
très noble.
Non, pas très noble.
Jean-François Marmion. Alors il y a des domaines aussi sur lesquels on est plus attaché que d'autres. Là je ne parle pas des sujets, je parle des domaines. Certains nous parlent de leur vie privée et ont du mal à exister dans leur vie privée. D'autres dans l'univers professionnel. On peut effectivement lâcher un peu l'affaire sur un domaine et s'accrocher sur un autre dans la vie.
Oui, c'est ce que je disais en début d'émission. Il y a vraiment des choses qui nous structurent, qui nous définissent, qui sont propres à notre identité. On n'a pas envie de lâcher là-dessus. Après, le reste, rien n'empêche effectivement de partir en courte conversation ou de terminer par une pirouette. C'est pas de l'esquive, c'est pas de la fuite, c'est du lâcher prise aussi. Ça fait du bien. Mais ce qui est le plus terrible, c'est lorsqu'on est face à un mur dans le couple, avec quelqu'un qui est volontairement sourd, alors qu'on devrait pouvoir tout lui dire. Et qui devrait pouvoir tout entendre. Mais alors, quelqu'un qui devrait pouvoir tout entendre et qui n'écoute rien, ça dénote un gros problème dans le couple et c'est malheureusement pas très rare.
Mais alors, je ne sais pas. Non, mais c'est vrai.
Ah, je ne parle pas pour moi.
Beaucoup s'en plaignent, mon petit you-you. Guillaume Villemot, justement, ne pas répondre à l'autre, être imperméable à ce que nous dit l'autre, c'est une façon de le nier finalement.
Oui, souvent ça peut entraîner même une certaine forme de violence, enfin pas une certaine forme, mais une vraie violence, parce que quand vous avez en face de vous quelqu'un qui ne réagit pas et qui reste, et je repense à ce que disait Jean-François sur les aspects de, sur les conversations et les échanges de couple, si en face de vous, vous avez une espèce de mur absolu, c'est d'abord un, ça ne fait pas progresser grand-chose, effectivement, et deux, ça peut entraîner de la part de la personne qui continue à essayer de faire passer ses arguments, à essayer de faire comprendre quelque chose, une espèce de frustration absolue, voire un énervement encore plus important. Mais là, on est plus dans la notion du combat. que dans la notion de la construction. La conversation reste une construction.
On parlait de porte tout à l'heure. Une conversation, c'est ouvrir une porte à l'autre aussi, Isabelle Châtaignier.
Oui, bien évidemment. Une conversation, c'est ouvrir une porte, c'est échanger des idées. C'est finalement ce qui fait notre humanité aussi. Une vraie conversation, là, c'est beau finalement d'écouter quelqu'un, d'être dans la réciprocité. Oui, bien sûr.
Alors, je voudrais qu'on revienne sur les sujets, la hiérarchie des sujets, Jean-François Marmion. Il y a des choses qui nous paraissent complètement inintéressantes, des broutilles, et puis d'autres qui deviennent absolument essentielles. Est-ce que vous pensez justement aussi, à contrario, qu'avoir le dernier mot a permis parfois de porter de grandes causes ?
Alors là, est-ce que ça peut permettre de porter de grandes causes ? Je suis pas certain que ce soit toujours le cas. C'est comme ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une part de spectacle là-dedans. Franchement, il y a une part de spectacle. On est tous comme ça. Vous parliez du débat de 88 tout à l'heure, présidentiel. Et on était au spectacle. Et de même Nicolas Sarkozy contre Ségolène Royal, qui va gagner, Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, qui va moucher l'autre, qui va démontrer qu'il ne se laisse pas démonter, quelle que soit la situation, mais on va pas chercher les arguments pour se déterminer en son âme et conscience là-dedans. Donc ça peut changer le cours de l'histoire d'avoir le dernier mot, de moucher quelqu'un publiquement. On verra ça dans le débat présidentiel aux USA aussi, mais ça fait pas avancer sur le fond. C'est purement formel, en fait.
D'accord. Donc ça, c'est dans le débat politique. Vous avez raison. On va se retrouver dans un instant. On va parler peut-être avec vous aussi, Isabelle Châtaignier, de certains pour qui, effectivement, des sujets sont très importants. Et quelque part, ne pas forcément écouter les autres permet aussi de les faire avancer. Mais on va le développer ensemble dans un instant. On est en direct sur l'antenne d'RTL. À tout de suite.
RTL. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL.
Vous trouvez qu'on est dans un monde agressif en ce moment, Guillaume Gilmot ?
Absolument. Je trouve qu'on est dans un monde agressif. Je trouve que le port du masque, je trouve que les...
Ah, ça, on va en parler fin de semaine, sur les relations sociales.
Les présences partout de ces trucs en plastique aujourd'hui qui font qu'on n'entend pas naturellement les gens et qu'on entend, on est obligé de leur demander de répéter, crée une dimension aujourd'hui très agressive. Il y a une perte de bienveillance absolument totale. Donc oui, je suis un peu inquiet.
Alors, est-ce qu'il faut faire montre d'agressivité, justement, Isabelle Châtaignier, pour porter un discours, pour porter une cause, ou en tout cas pour avoir le dernier mot, pour des raisons qui sont, pour le coup, là, cette fois-ci, non pas d'ego, mais qui sont nobles?
Alors, je dirais pas d'agressivité, mais plutôt de pugnacité.
Oui.
C'est vrai que parfois, on a une cause qui nous tient à cœur, ou moi, par exemple, quand j'étais avocate, quand j'étais dans le prétoire et que je savais que mon client avait raison, je peux vous dire que j'essayais quand même d'avoir le dernier mot. C'est pas tellement une question de forme pour se faire plaisir, pour être le dernier à parler au tribunal, c'est plus parce qu'on a véritablement l'impression d'être investi par une cause et surtout qu'on ne veut pas laisser dire n'importe quoi en face.
Voilà,
c'est ça qui est très important. C'est parfois vouloir avoir le dernier mot, c'est aussi refuser de laisser faire. Et notamment de laisser faire sur des causes qui sont importantes et qui méritent qu'on les défende.
Jean-François Marmion, on a parfois des conversations, soit effectivement des conversations d'ordre privé, soit parfois publiques aussi, pour des combats publics qui nécessitent cette pugnacité dont nous parle Isabelle Châtaignier. Et donc d'avoir ce fameux dernier mot, de porter les stockades.
Oui, parce que dans ce cas, si on capitule, on peut laisser croire que notre cause n'était pas la bonne.
Exactement.
Et on peut discréditer tous ceux qui se battaient avec nous.
À quoi pensez-vous ?
Je pense à rien. si.
Je pense à l'homophobie. Je pense, enfin, il y a des choses qui me semblent le racisme, l'homophobie.
Oui. Mais ça peut aussi être porté sur des terrains intellectuels. Je pense à hydroxychloroquine, moi, vous voyez ?
Ouais,
c'est par exemple Didier Raoult contre tous les autres, c'est un peu contre le reste du monde. Et celui qui va capituler reconnaîtra qu'il avait tort, qu'il s'est mal conduit, qu'il fallait pas injecter ce traitement-là ou qu'il le fallait, etc. Et c'est pas anodin du tout parce qu'il y a toute une communauté derrière qui se reconnaît dans son champion.
Ah ben, Guillaume Villemot, on en parlait en antenne il y a un instant. Guillaume.
Ouais, je trouve que c'est très intéressant au travers de ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est que jusqu'à présent, chacun avait un avis uniquement et la moitié des Français étaient sélectionneurs de l'équipe de France de foot. Et aujourd'hui, avec ce qui s'est passé autour des discours de Raoult, etc., c'est que tout le monde est devenu médecin. Alors, avec derrière ce danger qui est que chacun a un avis très affirmé, sans avoir fait autre chose que d'aller regarder vaguement sur un site internet.
Non, mais ça interroge la légitimité du discours.
Mais bien sûr, c'est ça qui est la grande difficulté aujourd'hui. C'est qu'on se retrouve avec des tas de gens qui tout d'un coup, se déclarent spécialistes de quelque chose dont ils n'ont jamais entendu parler, si ce n'est sur les réseaux sociaux, ont un avis très sûr, et viennent l'affirmer comme étant la dernière vérité. Et ce qui entraîne derrière, c'est cette violence dont je vous parlais tout à l'heure, on la retrouve, qui ressort dans ces univers-là, et c'est absolument catastrophique, parce que j'ai même pas à savoir si Raoult a tort ou a raison. Il est médecin, je ne le suis pas. Donc partant de là, son avis vaut plus que le mien d'un point de vue scientifique. Voilà.
Isabelle Châtaignier.
Oui, non, mais c'est tout à fait vrai. C'est vrai que parfois on gagnerait à laisser parler les experts sur leur sujet d'expertise et à ne pas du moins se situer sur au même niveau qu'eux. Ne pas penser que notre avis vaut la même chose. Moi, je sais que si vous me parlez de physique quantique, par exemple, bon, bah, mon avis ne vaut rien, hein, concrètement. Et c'est vrai qu'on est parfois dans une course à l'agressivité et à vouloir absolument toujours parler.
Guillaume ?
On peut poser une question. Que... C'est-à-dire que quand on va se retrouver face à quelqu'un un sachant à un moment donné, j'entends. On peut avoir une question à lui poser qui va faire avancer. Mais vouloir se dire qu'on a un avis qui vaut autant que le sien, ce n'est pas possible.
Jean-François Marmion, excusez-moi, je reviens sur ce sujet parce que vous êtes psychologue. Je pense à l'homophobie, on en parle régulièrement dans cette émission. Je pense à tous ces sujets de tolérance. On ne lâche pas dans ces cas-là parce que non seulement, effectivement, on pourrait donner le sentiment d'être du mauvais côté, mais on pourrait donner au moins le sentiment d'adhérer au point de vue de l'autre, vous voyez ce que je veux dire ? Ou que la cause ne vaut pas qu'on la défende ?
Oui, mais puisqu'on parle d'homophobie, souvent, ça a ses racines très profondément. On ne devient pas homophobe à 40 ans. C'est parce qu'on a toujours grandi comme ça et on n'a fait que renforcer notre
Oui, mais on ne lâche opinion. Pas face à un tonton homophobe.
Comment ?
On ne lâche pas face à un tonton homophobe.
On ne lâche pas face à son tonton homophobe, c'est-à-dire...
Bah quand on a des arguments homophobes qui sont tenus lors d'un repas, on ne va pas lâcher face à ce genre d'argument.
On ne va pas lâcher, mais on sait très bien que ça ne sert à rien, parce qu'en psycho, il y a ce qu'on appelle la réactance.
Voilà.
La réactance, c'est quelque chose qui se déploie lorsqu'on essaie de vous convaincre. De toute façon, quel que soit le sujet dont on essaie de vous convaincre, vous partez du principe que non, je fais attention, qu'est-ce que tu racontes, t'as intérêt à bien me convaincre. C'est assez étonnant, hein, c'est un réflexe. Le réflexe, c'est de dire « non, je te crois pas ». Alors si on continue sur notre lancée, ben voilà, ça ne fait que se renforcer. Et plus on va essayer de nous convaincre, plus on va se crisper en disant « non, je ne te crois pas, j'ai décidé que je ne voulais pas être convaincu. Et ce que tu déploies contre moi maintenant, tes arguments, ça devient de l'agressivité pour moi. »
Et gna gna gna. On se retrouve dans un instant. Est-ce qu'Isabelle Châtaignier veut réagir à tout de suite ?
RTL, on est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30.
Isabelle Châtaignier, vous écoutiez il y a un instant Jean-François Marmion à qui je demandais s'il fallait toujours s'opposer au tonton homophobe et il nous disait ouais bon il y a un moment aussi où bon peut-être un peu lâcher l'affaire.
Alors c'est vrai que quand on est dans un cadre privé clairement on peut pas convaincre tout le monde, on peut pas aller contre les convictions, mais quelque part ça va au-delà.
C'est pour
de ça,
soi aussi.
Oui, c'est pour soi d'une part, parce que qu'est-ce que c'est que répondre en fait ? C'est aussi se soulager, se dire que au moins moi j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai défendu mon point de vue, et surtout encore plus quand on est dans un cadre public, on ne peut pas laisser passer ce genre de conversation.
On ne peut pas laisser dire.
Voilà, il y a une différence, c'est vrai, entre le dîner de famille privé et le plateau télé ou le plateau radio, mais quand on est en public, je pense que vraiment il faut pas hésiter à porter sa parole.
Guillaume ?
Oui, il y a des sujets avec lesquels on ne peut pas transiger.
Voilà, on ne peut pas transiger.
Et se taire, c'est donner raison à l'autre. Et quand vous citiez les aspects d'homophobie, on peut parler effectivement de négationnisme, on peut parler d'un certain nombre de choses, c'est à un moment donné, on laisse la parole à l'autre, et donc partant de là, on lui laisse un boulevard. Donc il faut être en capacité d'aller au moins affirmer son raisonnement jusqu'au bout.
Et encore plus aujourd'hui, où la parole est portée, déformée, portée sur les réseaux. Enfin bon, ça peut aller très vite et ça peut aller très loin.
Oui, je voudrais apporter une petite précision.
Qu'est-ce qu'il veut, Youyou, là ?
Oui, ouais. Youyou, il dit qu'il faut, il faut pas capituler, il faut pas se taire devant le tonton homophobe.
Ouais.
C'est pas ça que je dis. Il faut répondre. Mais je dis qu'on n'aura jamais le dernier mot.
Alors ça, c'est possible.
On se fatiguera avant lui.
Guillaume.
Oui, c'est possible. Parce qu'effectivement, moi, j'ai vécu ça en famille sur d'autres sujets. Et à un moment donné, ça ne sert plus à rien. Mais en revanche, ça nous fait du bien dans cette sphère-là que de pouvoir aller jusqu'au bout de son raisonnement.
Exactement.
Et de ne pas lâcher le truc. Et, en revanche, je pense qu'il y a des vrais... Enfin, encore une fois, il y a des combats sur lesquels on ne peut jamais rien transiger.
Il faut mettre ses émotions de côté aussi, je dirais, quelque part, Isabelle Châtaignier, pour être en mesure d'avoir une conversation, parfois sur des sujets brûlants, justement, une conversation digne de ce nom.
Alors oui, tout à fait. Par exemple, la bonne répartie, c'est pas une répartie qui sera dans l'émotion. Mm-hmm. Si vous restez trop dans l'émotion, l'émotion, à un moment donné, va vous submerger. Une bonne répartie, qu'est-ce que c'est ? C'est une phrase qui vient analyser une situation, en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que, quelque part, un peu contre-intuitivement, la répartie, c'est plus le terrain des introvertis que des extravertis. Parce que les extravertis, comme ils ont une aisance à l'oral, vont avoir tendance à jeter des phrases comme ça, mais qui n'ont pas forcément de sens. Alors que les introvertis, qui sont des personnes qui vont analyser, qui vont regarder ce qui se passe, quand elles vont parler, vont peut-être plus facilement faire mouche que les extravertis. Donc, amis introvertis, surtout, n'hésitez pas à l'ouvrir.
Hein. Voilà, et j'invite justement ceux qui nous écoutent et qui se sont touchés par les propos d'Isabelle Châtaignier de revenir sur les podcasts sur RTL.fr de cette émission, sur les replays, puisqu'on a traité effectivement de la parole des gens discrets, en se disant que c'était peut-être justement celle-ci qu'il fallait écouter. C'était intéressant, dites-moi Guillaume Villemot. On va vous offrir la bonnette RTL, parce que vous avez joué avec pendant toute l'émission, il se la faisait sur le doigt, enfin bon voilà, donc tenez, c'est pour vous.
Stress, c'est formidable.
En attendant, le festival des conversations, donc vous nous tiendrez au courant, ce sera au mois de novembre.
Ouais. On va
et ça touchera
quoi.
L'enfance. Oui, voilà. En tout absolument. Cas, bravo, parce qu'effectivement, voilà un art qu'il faut protéger lui aussi, l'art de la conversation. Vous êtes
merci.
Également président de l'Agence des quartiers. C'est à la fois des agences d'info, des agences de formation pour des jeunes en banlieue, c'est ça ?
Exactement.
Des voilà, pour les aider.
Issus des quartiers prioritaires.
Exactement. Et Oser les conversations, c'est votre ouvrage aux éditions Erol. Merci beaucoup, Guillaume. Ça
merci
m'a bien fait plaisir
moi
de
aussi.
Vous revoir. À la prochaine. Ouais. Merci beaucoup, Isabelle Châtaignier.
Merci,
je rappelle le petit livre des réparties de choc aux éditions First. Et puis, ce fameux livre que j'adore, le petit manuel, c'est un petit, de la mauvaise foi, coécrit avec Charles Laroche, que vous pourrez saluer pour nous, justement, aux éditions First. Jean-François Marmion.
Eh oui.
Eh bien oui, aux éditions Sciences Humaines, on retrouve votre dernier ouvrage, qui est super intéressant, qui s'appelle Psychologie des beaux et des moches. Et c'est vrai que c'est intéressant. Donc je vous remercie d'avoir été avec
nous,
Jean-François. À bientôt, hein, petit
Yuli. À bientôt, ouais.
Allez, rendez-vous demain, donc dès 14h30 en direct sur RTL pour de nouvelles conversations. Tiens, je recevrai Paul Elkarat pour un grand entretien autour de l'autisme et d'Asperger. Ce sera passionnant dans cette attente. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, dont on est fait pour s'entendre, notre page Facebook ou encore Twitter. Moi, je suis de l'autre côté. On est tous de l'autre côté, derrière nos ordi, nos smartphones, pour pouvoir converser avec vous. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous demain, 14h30, en direct sur RTL.